Paul Raphaël Charon. Deux hommes en onde. En onde. Jusqu'à 14h au FM 93.
Notre série d'entrevues cassettes s'achève aujourd'hui. Depuis le début de la campagne, on a reçu Joël Lightbound du Parti libéral qui nous a inspiré le concept quand même. Faut lui remettre. Il y a Luc Jolicoeur du Parti vert qui est venu nous voir, Joël Godin du Parti conservateur et Sébastien Bouchard-Théberge du Bloc québécois. Et chaque fois en cours d'entrevue, s'ils nous sortaient des phrases creuses, on leur donnait une cassette. C'est comme ça que ça fonctionnait. C'est Paul Raphaël qui est le maître de la cassette.
Oui, monsieur.
Et ça vient avec un effet sonore. Quel son? Donc, on veut pas de phrases creuses, on veut pas de discours pré-mâchés, on veut vraiment des réponses qui sont claires et concises. Et le dernier candidat à subir les foudres du maître des cassettes, Paul, il est avec nous en studio, il s'agit de Jérémy Junot, il est candidat du NPD dans Louis-Hébert. Bonjour, monsieur Junot.
Bonjour.
Je vous ai vu à la télé, mais on parlait plus de votre attaché de presse, Jérémy Gabriel, que de vous. Est-ce que ça vous a dérangé?
Non, pas du tout. En fait, je vous dirais, Jérémy, de base, c'est quelqu'un qui est venu s'impliquer pour nous parce que dans tous les candidats qui avaient fait sonder à Louis Hébert, il est parti. J'étais le candidat qui allait le chercher le plus profondément.
Okay.
Et il a voulu s'impliquer en politique. Nous, on savait pas trop comment ça marchait, en fait, vu que moi, je suis nouveau dans le domaine aussi. Mm-hmm. Et au niveau de les presses, la communication, etc. Puis lui, quand il est devenu notre attaché, il a commencé à faire des meetings, etc.
OK.
Puis je vous dirais que souvent, les gens me disent « Est-ce que ça me gêne? » Je dis « Non, ça me gêne pas. » Tu sais, il m'a quand même permis de me démarquer. Il est un excellent attaché politique pour vrai. Je trouve ça incroyable. Puis c'est surtout que, de un, il faisait un excellent travail. De deux, toute personne qui veut s'impliquer dans le processus politique, peu importe qui qu'ils sont, ont le droit de le faire.
Dans ton cas, Jérémy, pour quelle raison est-ce que tu as décidé de t'impliquer auprès du NPD?
Parce que, en premier lieu, quand on choisit le parti qu'on veut se représenter, en fait, on y va surtout en fonction de nos valeurs personnelles. Quel parti je veux vraiment le mieux, qui me représente le mieux, puis que je veux vraiment essayer de m'investir dedans. Moi, c'est comme ça, je l'ai vu. Puis la raison pourquoi j'étais au NPD, c'est que oui, ils sont beaucoup plus. Tu sais, on parle beaucoup d'environnement, puis eux, les NPD, tant qu'à moi, en ce moment, ont la plateforme environnementale la plus conséquente. La différence, c'est que c'est surtout au niveau des inégalités sociales qui est intéressant, que moi, ça vient me chercher. Tu sais, j'ai vécu dans toute ma vie dans l'entrepreneuriat, fait que quand on parle d'inégalités sociale, nous, on le voit tous les jours, c'est quoi, puis on trouve que, malgré qu'on parle beaucoup d'environnement, ce qui est normal, on parle pas assez des inégalités sociales, puis on a tendance à oublier cette partie-là.
Vous êtes étudiant, êtes-vous au courant que vous gagnerez pas l'élection?
Et c'est ça qui est intéressant. Les gens, souvent, ils vont me dire « Ah, tu sais, tu vas pas gagner l'élection. » Moi, je suis franchement au courant qu'en ce moment, mes chances sont très minces. On va se dire, c'est à peu près 0%. Ce qui est intéressant, c'est les autres élections. Moi, okay. Je suis là pour rester. Je suis rendu dans le membre de l'association de circonscription. Ce qui est intéressant, c'est souvent quand on fait la politique, on la fait pendant l'élection. Moi, je veux la faire entre les élections aussi. Je veux faire du porte-à-porte entre les élections, aller chercher des membres, essayer d'aller convaincre les gens, écouter les gens aussi, parce que parfois, les gens, c'est la raison qu'un parti va progresser, c'est que si on les écoute et qu'on amène leurs idées dans une plateforme ou dans une argumentation qui est concrète, solide, bien établie, ils vont se sentir beaucoup mieux représentés, puis c'est comme ça qu'on fait la politique.
Donc, c'est une implication pérenne. C'est plus qu'une campagne, c'est plus qu'une ligne dans le CV. Vous voulez être là pour les prochaines années.
Oui. La stabilité, c'est important.
OK. Le NPD a plusieurs promesses ambitieuses. L'assurance médicaments, l'assurance dentaire pour les ménages qui gagnent moins de 90 000, notamment.
70,
OK. C'est des promesses qui sont quand même coûteuses puis qui viennent empiéter sur les compétences provinciales. Vous êtes à l'aise avec ça?
En réalité, en premier lieu, le NPD, le parti qui veut augmenter l'autodétermination du Québec. Et quand on parle de compétences provinciales, on doit se le dire. Le NPD veut collaborer avec les provinces, il veut rien imposer avec les provinces. On le voit souvent dans la plateforme, on veut collaborer avec le Québec, on veut collaborer avec toutes les provinces pour faire un plan commun. Il y a toujours un droit de retrait qui existe. Puis le droit, quand il y a un droit de retrait, on reçoit la somme qu'on était censé...
N'empêche que je vois des promesses. Par exemple, M. Singh a annoncé la promesse de rouvrir une salle d'urgence dans un hôpital de Winnipeg. Il a fait ça cette semaine. Moi, quand je vois ça, je me dis, c'est le provincial qui gère tout ça. Il n'y a rien à voir là-dedans en tant que potentiel premier ministre fédéral. Donc, ça, vous trouvez pas que ça rentre un peu en contradiction avec le principe du fédéralisme qu'on a au Canada?
En fait, on va prendre en considération un autre fait. Souvent, les provinces ont des ressources en fonction de leur impôt. Le fédéral prend aussi une partie de l'impôt, on s'entend. C'est normal. La différence, c'est quand on dit qu'on veut réouvrir, il faut collaborer avec les provinces, voir qu'est-ce qui manque. Peut-être que l'Alberta ou le Winnipeg, si je ne me trompe pas, c'est en Ontario. Je suis pas trop sûr.
Winnipeg, Manitoba.
Ouais. Manitoba, parfait. Quand on parle, mettons, d'une ville, comme mettons une autre province où ça va d'incompétence provinciale, il faut se dire peut-être qu'il manque de ressources. Puis quand on dit on veut la réouvrir, en fait, il faut collaborer avec la province, savoir pourquoi que tu allais fermer. Est-ce qu'il y aurait moyen qu'on puisse vous aider à la réouvrir?
Mais reste que c'est des compétences provinciales. Le NPD veut s'immiscer dans des compétences provinciales. Non. Ils veulent faire les déjeuners dans les écoles. Là.
On veut pas s'immiscer. On veut faire des plans communs. Si les provinces veulent pas.
Ça va prendre une cassette, Will. Je
Non, mais
c'est pas grave, c'est la première.
Mais si on veut vraiment... tu sais, on parle souvent des compétences provinciales. C'est vrai que c'est des compétences provinciales. Par contre, des plans pan-canadiens, c'est quelque chose qui est normal. Mettons qu'on parlait de l'assurance médicaments plutôt. Oui. On peut parler d'économie d'échelle, ce qui est très avantageux autant pour les Québécois que... Puis c'est pas une question de... c'est surtout une question de plus qu'on achète en volume, moins c'est cher. C'est normal. Et les Québécois, ça serait très bénéfique. Est-ce qu'on veut l'imposer au Québec? Non.
Le droit de retrait reste là, malgré
tout. Il
reste
là, partout. Il y a toujours un droit de retrait. Puis quand on parle qu'on veut aider les provinces, qu'on veut favoriser certains programmes, en fait, faut collaborer avec la province. Faut voir est-ce que la province veut en premier lieu. Est-ce que si elle veut... Comment qu'on peut l'aider en fonction de ses plans à elle?
Ben, le Québec veut pas d'ingérence au niveau de la loi 21, par exemple.
Nous, on n'en aura pas. On ne fait pas d'ingérence. On n'a jamais parlé de faire une ingérence. Nous, ce qu'on dit, c'est si les gens veulent la contester, qu'ils la contestent, mais ça peut se faire très bien à la Chambre d'appel au Québec, parce qu'en fait, la Charte des droits et libertés québécoises aussi protège les libertés religieuses en tant que telles. C'est même pas une question de fédéral. Ça pourrait se faire au provincial, puis nous, on veut juste pas intervenir. On a dit que oui, c'est prêt, que ça peut être un peu triste. Lui, Jiang Min aime un peu moins la loi 21, mais il ne va jamais intervenir. Puis il a été très clair sur plusieurs sujets. Même en anglais, il a été très clair qu'il n'interviendrait pas sur la loi du Québec parce que c'est une loi qui concerne le Québec.
OK. Revenons aux enjeux locaux, si vous le voulez bien. Quelles sont, d'après vous, les principales préoccupations des gens dans Louis-Hébert? Vous les avez rencontrés dans les trois dernières semaines. Quels sont les enjeux qui reviennent le plus souvent?
En premier lieu, souvent l'environnement qu'on parle en général. Mais ce qui est intéressant, qu'on parle de moins en moins, je vous dirais en général, surtout au niveau des autres candidats, c'est on parle aussi des familles, on parle aussi de l'accessibilité à des soins de santé. Plus ça va, quand j'étais à Louis-Hébert, les choses que j'ai remarquées qui étaient les plus préoccupantes pour les citoyens, il y avait l'environnement qui sortait toujours en premier, mais okay. Ce qui venait à part après, c'est notre pouvoir d'achat. On a l'impression d'avoir de moins en moins d'argent, on a l'impression d'être toujours plus taxé. C'est quelque chose qui est fondamentalement vrai en quelque sorte, parce que c'est vrai qu'on l'a vu avec des évolutions au niveau de plusieurs économistes. On peut parler de Thomas Piketty qui s'est vraiment basé son novel sur comment ça se passe en fait, les pouvoirs d'achat, etc. Puis on voit que les classes moyennes perdent tout le temps de plus en plus de pouvoir d'achat, puis perdent des moyens. Puis moi, quand je consultais la population, ce qui était aussi quelque chose qu'ils aimeraient vraiment voir, c'est une réforme de la fiscalité en général. On parle aussi plus de mouvements concrets pour l'environnement. Ça, c'est normal, tout le monde en parle. La réforme fiscale, une taxe de carbone, quand on limite juste les entreprises canadiennes, les gens disent « oui, mais après ça, nous, on va acheter du matériel d'étranger, parce qu'il n'y aura pas de taxe de carbone. Fait que nous, on va juste aller vers l'étranger, on va dire, on oublie le commerce canadien. Mm-hmm. C'est quelque chose qui sortait de plus en plus souvent aussi.
Mais n'empêche, vous parlez de pouvoir d'achat, puis quand je vois les promesses du NPD, puis le nombre de milliards qui sont associés à ça, va falloir aller chercher de l'argent quelque part, puis ça risque d'être dans les poches des contribuables. Donc, c'est le NPD qui serait le mieux placé pour donner du pouvoir d'achat supplémentaire aux Québécois?
On va prendre la plateforme du NPD, puis on va l'analyser en 30 secondes. En premier lieu, on veut couper les subventions au niveau des sables bitumineux. Bon, on parle de dizaines de milliards par année. Sauf que ce que le monde ne comprenne pas, c'est quand on subventionne avec une dizaine de milliards par année les sables bitumineux, l'impact social au niveau de la santé mentale, au niveau de la santé physique, au niveau de l'impact de l'environnement, la pollution, les problèmes après ça, au niveau des pulmonaires qu'on développe. Ce qui est intéressant, c'est que ces impacts-là sont des dizaines de milliards, pas une dizaine, des dizaines de milliards. Si on enlève 10 milliards de subventions dans les entreprises de l'Ouest, parce que en quelque sorte, c'est pas normal qu'on se dise environnementaliste puis qu'on investisse autant, puis qu'on prend cet argent-là puis qu'on la met dans d'autres programmes. Tu sais, on parle souvent, faut laisser le marché, il y a des gens, des adeptes du libre-marché, mais qu'on dirait qu'ils comprennent pas que l'Alberta, c'est loin d'être un libre-marché. C'est un endroit où on intervient souvent, qu'on subventionne énormément quand on veut prendre cet argent-là puis la mettre ailleurs. Mm-hmm. C'est tout ce qu'on propose. Est-ce que c'est de couper des budgets? Non, on prend de l'argent qui existe déjà, qu'on met déjà, mais on la répartit à des endroits plus intelligents puis beaucoup plus efficaces.
OK. Qu'est-ce que vous pensez du projet de réseau de transport structurant de la Ville de Québec? Et considérant le fait que Ottawa a promis d'investir 1,2 milliard, s'il y a des dépassements de coûts, est-ce que le fédéral devrait investir davantage à votre avis?
Oui et oui. Le projet, en fait, nous, on a un engagement d'honorer l'investissement déjà proposé par le gouvernement actuel pour le réseau de transport en commun.
Oui.
Mais récemment aussi, Boulris avait sorti puis avait fait une annonce que si on aurait un pouvoir XYZ d'Ottawa, ce que nous, on voudrait, c'est créer un fonds d'investissement pour les futurs projets ou les projets déjà existants de réseau de transport structurant. C'est au NPD quelque chose qu'on prend à cœur, mais c'est surtout de voir à long terme comment ça peut être bénéfique. Quand on parle du réseau de transport structurant, on parle de désengorger la congestion routière, on parle de permettre aux gens de se déplacer avec plus d'aisance aussi. Ceux qui n'ont pas accès à des véhicules vont avoir plus de facilité à se déplacer, puis ceux qui ont un véhicule vont être moins congestionnés.
OK. Donc ça, c'est pour le projet de réseau de transport structurant. Ça, c'est un des deux gros projets qui sont sur la table actuellement à Québec. L'autre, c'est celui du troisième lien. Vous en pensez quoi?
Écoutez, si on parle du troisième lien, on va parler en fait au niveau du libre-marché. J'aime beaucoup prendre les arguments du libre-marché parce que les gens les convoient plus un peu, parce que c'est beaucoup plus économique. Le troisième lien, en général, quand on en parle, ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est au niveau, si on le mettrait utilisateur-payeur, c'est le pont au Canada qui coûterait le plus cher. En ce moment, mettons, on parle du pont de Montréal, il y a un pont qui est payé la R25.
Oui.
C'est à peu près 7,50 par passage. Si on le mettrait le pont utilisateur-payeur du troisième lien, on parlerait d'une cinquantaine, c'est pas une centaine de dollars par passage. Est-ce que le monde serait à l'aise à payer ce montant-là? On parle aussi d'évaluer les coûts. Les coûts du troisième lien, en général, on parle de 6 milliards en partant, puis on peut aller jusqu'à 10 milliards en comptant les dépassements de coûts. Ce que moi, je veux dire, c'est que dans l'endroit où ils veulent le faire, dans l'est de la ville de Québec, que c'est complètement inutile par principe, qu'on a fait des études au niveau des transports, au niveau de où ce que les véhicules vont, etc., qui traversent les rives.
Oui.
C'est majoritairement dans l'ouest, non dans l'est. Là, on parle de prendre des fonds publics, des ponts, des contribuables, des dilapidés dans des projets qui n'ont aucun bon sens. Quand on dit, oui, c'est des compétences provinciales, nous, on ne peut pas empêcher le troisième lien. S'il veut le faire, il va se faire. Nous, on ne veut pas intervenir. La différence, c'est qu'on ne va pas fournir des fonds fédéraux pour les dilapider dans des projets qui n'ont aucun bon sens.
Mais pourtant, c'est la job du fédéral d'investir dans les infrastructures.
Oui, mais en réalité...
Si la province demande une part, entre guillemets, de son dû en disant, regardez, nous, c'est ça l'infrastructure qu'on veut faire, un gouvernement hypothétique du NPD ne financerait pas?
En fait, faut le dire... Quand on fait un gouvernement a comme devoir aussi d'évaluer plusieurs options, pas seulement une option. On a fait des études pour l'Est, on n'a pas fait des études pour un troisième lien dans l'Ouest, par exemple. On
le
a
NPD
pas...
ferait ça?
Mais en fait, ça, c'est un travail du provincial. Le NPD, par contre, pourrait subvenir au coût, en quelque sorte. Mais si on peut parler, en fait, de l'infrastructure, souvent, ce que les gens, quand je leur parle, se disent « Ah, c'est pas fou non plus ». On parle d'investir dans un troisième lien, on passe à peu près 6 milliards de dollars. Mais imaginez qu'on prenne 6 milliards de dollars puis qu'on l'investisse dans l'infrastructure routière qu'on a déjà pour la remettre à jour. On va se le dire, l'infrastructure routière à Québec est relativement désuée. Il y a des nids de poules partout. C'est pas nécessairement beau. Il y a beaucoup de travaux qu'on doit faire. On les fait par segment parce qu'on n'a pas nécessairement assez d'argent pour faire.
Okay, donc, vous voyez le coût d'opportunité là-dedans. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet argent-là plutôt que de construire un nouveau lien?
Pour le transport à Québec, ça serait beaucoup plus intéressant de refaire l'infrastructure routière déjà présente. Parce qu'on met un troisième lien dans des réseaux déjà engorgés et surtout dans une infrastructure routière qui est déjà, en ce moment, due pour être retravaillée. Mm-hmm. C'est après ça, c'est-à-dire, on va faire un troisième lien, mais il va quand même falloir qu'on réponde aux infrastructures routières.
OK, merci beaucoup pour votre réponse.
On a juste une cassette.
On a juste une cassette. Compte final, une cassette pour Jérémy Junot.
Vous êtes le candidat qui a reçu le moins de cassettes dans toute cette campagne.
vous êtes le dernier, en fait.
Vous êtes le dernier de mémoire.
Le maximum, c'est 3 et le minimum, c'est désormais 1. Je crois que c'est M. Jolicoeur qui en avait reçu 3.
Puis les deux autres, on avait eu
M.
2.
Godin.
Je me souviens pas, mais en tout cas, bref, une seule cassette pour... Non, on va pas s'ingérer dans les affaires du provincial. On va collaborer.